Le fil info.
Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. Les Saskatchewanais recevront la remise canadienne sur le carbone selon Justin Trudeau. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, affirme que les habitants de la Saskatchewan continueront à bénéficier de la remise canadienne sur le carbone, même si la province refuse de percevoir la taxe carbone fédérale sur les factures de gaz naturel. Lors de son passage à Saskatoon, Justin Trudeau a indiqué que l'Agence du revenu du Canada dispose des moyens nécessaires pour récupérer les sommes dues par le gouvernement saskatchewanais. Au début de l'année, le gouvernement de la Saskatchewan a arrêté de percevoir la taxe fédérale sur le chauffage domestique après qu'Ottawa eut accordé une exemption de la taxe pour les maisons chauffées au mazout dans certaines provinces. Cette décision du gouvernement saskatchewanais va à l'encontre de la loi fédérale. Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, n'a quant à lui pas donné de détails sur la manière dont l'agence fédérale allait recouvrer les fonds du gouvernement saskatchewanais. Initialement, Ottawa avait laissé entendre que les rabais accordés à la Saskatchewan dans le cadre de la remise canadienne sur le carbone pourrait être remis en question, mais ce n'est désormais plus le cas. Selon Justin Trudeau, la plupart des Canadiens reçoivent davantage en remise qu'ils ne paient en taxes sur le carbone. Dans le cadre du programme de garantie de prêt pour les Autochtones, Ottawa accordera jusqu'à 5 milliards de dollars en garantie de prêt pour les communautés autochtones qui souhaitent devenir propriétaires de ressources naturelles et de projets énergétiques. Ce financement, qui a été annoncé la semaine dernière dans le budget fédéral 2024, vise à aider les Autochtones à réaliser leurs priorités en matière de développement économique et à contribuer à créer de nouvelles possibilités économiques. Le gouvernement libéral accordera également une enveloppe de 390,4 millions de dollars à la construction et la rénovation d'établissements de santé. Le Manitoba rétablit le financement pour des groupes de défense de l'environnement. À l'occasion du Jour de la Terre lundi, le gouvernement du Manitoba a annoncé qu'il rétablit le financement pour trois organismes environnementaux à but non lucratif, Climate Change Connection, Green Action Center et Manitoba Econo Network. Ces trois organismes devront ainsi se partager la somme de 400 000 $. Le gouvernement néo-démocrate a aussi critiqué la décision du précédent gouvernement de réduire ce financement. Au lieu de prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique, le gouvernement précédent avait supprimé le financement des organismes qui font un travail important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger notre environnement, peut-on lire dans le communiqué de presse qu'il a publié. Selon un communiqué de presse, Climate Change Connection recevra 100 000 $ pour favoriser la sensibilisation, le renforcement des capacités et l'action en matière de changement climatique dans l'ensemble du Manitoba. Ce soutien est très important non seulement pour Climate Change Connection, mais aussi pour la population du Manitoba, affirme Kurt Hall, le directeur du projet de cet organisme. Ce soutien nous permet d'élargir notre champ d'action et d'entrer en contact avec le plus grand nombre de personnes. L'organisme Green Action Center recevra un financement de 230 000 $ pour faire progresser l'action climatique dans les domaines de la planification, de l'adaptation, de l'économie circulaire, du transport actif et des initiatives de sensibilisation dans l'ensemble du Manitoba. De son côté, le Manitoba Eco Network a reçu 60 000 $ pour contribuer à la poursuite des travaux d'adaptation au climat dans les quartiers défavorisés de Winnipeg dans le cadre du projet Climate Safe Green City. Et Lindsay Robinson, président du conseil d'administration du Manitoba Eco Network, espère que ce soutien financier ouvrira la voie à de nombreuses possibilités de collaboration entre la communauté environnementale et le gouvernement. Un refuge spécialisé pour l'accueil des immigrants bientôt ouvert à Edmonton. L'organisme sans but lucratif d'Edmonton, Hope Mission, souhaite proposer à l'automne un établissement d'accueil pour les nouveaux arrivants. Ce centre, qui aura une capacité de 100 lits, sera ouvert tous les jours 24 heures sur 24. C'est aux alentours de mai 2023 que nous avons commencé à voir les chiffres augmenter. Nous pensions qu'il s'agissait peut-être d'une affaire d'un mois ou deux mois, mais cela a vraiment commencé à devenir une tendance. C'est ce qu'explique Tim Pasma, directeur des programmes de Hope Mission. L'organisme dit avoir enregistré une augmentation de 700% de personnes s'identifiant comme demandeurs d'asile, nouveaux arrivants ou immigrants entre 2022 et 2023, passant de 25 personnes en 2022 à 199 en 2023. Cette réalité a conduit le personnel de ces refuges à devoir adapter leur service. Selon le directeur, un certain nombre de ces personnes arrivent à Edmonton pensant pouvoir y trouver des logements plus abordables qu'ailleurs au Canada, où les services sociaux sont surchargés. Les gens qui veulent venait nous voir nous disait qu'Edmonton était un endroit relativement abordable comparativement à d'autres villes comme Toronto où les services sociaux d'hébergement sont débordés. La situation des droits de la personne en Ouganda est souvent pointée du doigt. Le Bureau des Nations Unies pour les droits de la personne a fermé ses portes en août 2023, faute d'accord avec le gouvernement du dirigeant Yoweri Museveni, et ce pays d'Afrique de l'Est a durci ses lois anti-LGBTQ+ au cours de la dernière année. En conséquence, de nombreuses personnes issues de cette communauté quittent le pays. Charles Mulangira est le président de l'Association culturelle ougandaise de l'Alberta, un organisme basé à Edmonton. Selon lui, la répression et les arrestations ciblées exercées par le gouvernement Museveni en place depuis 38 ans contribuent à ces fuites. La Colombie-Britannique fixe la date du 29 novembre pour la transition policière à Surrey. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a fixé au 29 novembre la date à laquelle le service de police de Surrey prendra la relève de la Gendarmerie royale du Canada en tant que force policière de la ville. Le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a affirmé que la Gendarmerie royale du Canada de Surrey continuera de fonctionner et de fournir un soutien après la transition officielle, mais que la police fédérale déterminera le type de soutien qui sera offert. M. Farnworth a précisé que la transition s'effectuera dans le cadre des procédures provinciales et fédérales existantes et qu'elle ne nécessitera aucune modification des règles. Norm Limpinski, chef du service de police de Surrey, affirme que le service municipal compte actuellement 428 employés, dont 367 agents assermentés, et que les embûches s'accéléreront maintenant que l'annonce de la date de la transition est connue. M. Farnworth a précisé qu'il existe un accord entre la Gendarmerie royale du Canada et la municipalité pour le maintien de 834 gendarmes à Surrey et que la Gendarmerie royale du Canada sera redéployée au fur et à mesure que les services de police de Surrey embauchera des agents. Dans un communiqué publié mardi, la Chambre des commerces de Surrey a demandé au gouvernement provincial de reconsidérer son approche à l'égard de la transition qu'elle juge précipitée et d'accorder la priorité au maintien de l'efficacité des services de police de la Gendarmerie royale du Canada à Surrey. Cette année, Brenda Locke, mairesse de Surrey, et le conseil municipal de Surrey ont rejeté une offre de la province de fournir 100 millions de dollars supplémentaires à l'administration municipale, en plus d'une offre initiale de 150 millions de dollars pour les coûts supplémentaires liés à la transition vers un système policier autonome. Madame Locke a déclaré que la procédure judiciaire commencerait le 29 avril. Le premier ministre Simpson souligne l'importance de la collaboration pour adresser les enjeux clés du Nord. Après que le gouvernement fédéral a présenté son budget pour l'année 2024, le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, a réagi en mettant en avant son engagement envers la collaboration et les résidents du territoire. Le premier ministre Simpson a dit que la participation des Territoires du Nord-Ouest au processus budgétaire fédéral de cette année s'est avérée différente de celle de l'année dernière. Aucun financement spécifique pour la construction de logements au territoire du Nord-Ouest n'est inclus dans le dernier budget malgré la crise du logement que connaît le territoire. Récemment, en octobre dernier, Trudeau est venu à Yellowknife pour annoncer un engagement financier de 20,8 millions de dollars pour ériger 50 logements abordables à Yellowknife en soulignant que des logements accessibles et abordables en nombre suffisant sont essentiels pour bâtir des collectivités sûres. R.J. Simpson semble optimiste quant à l'annonce par Ottawa de futurs investissements dans le logement des territoires du Nord-Ouest. L'un des points du budget fédéral a été l'annonce d'investissements significatifs dans la sécurité de l'Arctique. Le premier ministre a souligné l'importance de ces mesures pour garantir que les communautés les plus isolées bénéficient d'infrastructures robustes. Face à l'augmentation des catastrophes naturelles telles que les inondations et les incendies, le premier ministre a insisté sur la nécessité de prioriser la sécurité publique et d'améliorer les mesures de préparation aux situations d'urgence. Le développement économique via le secteur minier a également été abordé. M. Simpson a laissé une mention spéciale pour l'investissement de 5 millions de dollars dans la Denende Development Corporation, une société minière à 100% Dene. Le premier ministre a aussi évoqué un investissement de 5,2 millions de dollars dans le centre d'Echinta pour les deux prochaines années, reflétant ainsi une approche proactive vers l'éducation et la formation professionnelle. Une nouvelle liaison aérienne offerte entre Iqaluit et Montréal à partir de cet été. À compter du mois d'août, la compagnie aérienne Chrono Aviation offrira un vol direct entre Iqaluit et Montréal à raison de 4 fois par semaine. L'entreprise québécoise de nolisement d'avions transporte plusieurs fois par semaine des travailleurs miniers de l'entreprise Baffinland qui gère la mine Mary River dans l'est du Nunavut. Le fondateur et vice-président de Chrono Aviation, Danny Gagnon, explique que l'entreprise a récemment acheté un avion de type Boeing 737-8. 800 qui accueillera davantage de passagers que ceux qu'elle utilisait auparavant, des Boeing 737-200. Il indique que l'entreprise sera ainsi en mesure de vendre des sièges vacants au public. Actuellement, seule l'entreprise canadienne North assure la liaison entre Iqaluit et Montréal, un vol offert deux fois par semaine qui exige une escale à Kujawaq au Nunavik et coûte plus de 1 500 $ l'aller simple. Le vol direct de Chrono Aviation sera offert à partir du 6 août et sera en vente à compter du 17 mai, comme le précise Danny Gagnon. Un aller simple coûtera 699 $ taxes incluses et comprendra un bagage cabine, un bagage enregistré, un repas et la possibilité de sélectionner son siège à l'avance. Il sera aussi possible d'avoir accès à des conditions d'annulation flexibles moyennant des frais supplémentaires. La liaison se fera avec l'aéroport métropolitain de Montréal, anciennement l'aéroport Montréal-Saint-Hubert, sur la rive sud dans la région de Montréal. Graham Dixon est le président d'Arctic Kingdom. Il affirme avoir été agréablement surpris d'apprendre qu'une nouvelle liaison aérienne faisait son apparition entre Iqaluit et Montréal. Graham Dixon juge toutefois positif que le vol ne soit pas limité à une courte période saisonnière. Dès la fin de juin, un vol direct reliera par ailleurs Iqaluit et Nuuk, la capitale du Groenland, pendant une durée d'environ 4 mois.
Le fil sportif.
Les U17 de water polo de la Saskatchewan se qualifient pour le championnat national. Les équipes féminines et masculines des moins de 17 ans de water polo de la Saskatchewan se qualifient pour le championnat national prévu au mois de mai avant leur dernier championnat de la saison, le championnat de l'Ouest à Saskatoon. En raison de leur parcours sans faute depuis vendredi, les deux équipes ont validé leur place pour la compétition nationale. En effet, jusqu'à samedi, elles ont remporté les 3 parties disputées. L'équipe masculine U17 de la Saskatchewan tente de défendre son titre de champion de l'Ouest canadien. Le premier tournoi de hockey Louis Riel à Saskatoon met l'accent sur la réconciliation. La vérité et la réconciliation avec les Autochtones étaient au cœur du premier tournoi de hockey de la Coupe Louis Riel inauguré cette fin de semaine à Saskatoon. Diverses communautés ont pris d'assaut les estrades et les patinoires à cette occasion. La Nation métisse de la Saskatchewan est l'organisatrice du tournoi de hockey qui fait une place à la question de la réconciliation. Tout au long de la journée, le public pouvait profiter d'un match de hockey féminin ou de hockey masculin. Les vainqueurs dans les catégories masculine et féminine du tournoi vont remporter un montant de 30 000 $. Josipa Kafadar et Skyler Park seront des Jeux olympiques de Paris. Taekwondo Canada et le Comité olympique canadien ont confirmé mardi que Josipa Kafadar et Skyler Park participeront aux Jeux olympiques. Kafadar, originaire de Burnaby en Colombie-Britannique, combattra dans la catégorie des moins de 49 kilos. Park de Winnipeg au Manitoba le fera chez les moins de 57 kilos. Cette dernière s'est qualifiée grâce à sa 3e place au classement mondial à la fin de l'année 2023. Elle se trouve désormais au 4e échelon. L'athlète de 25 ans en sera à une 2e présence. La Manitobaine de 24 ans a pris part à ses premiers Jeux en 2021. Elle avait atteint les quarts de finale et pris le 9e rang à Tokyo. Lekkonen et l'Avalanche égalisent la série contre les Jets de Winnipeg. Arturi Lekkonen a inscrit 2 points et l'Avalanche du Colorado a gagné 5-2 contre les Jets de Winnipeg mardi pour cette série de premier tour à 1 gain de chaque côté. Le Colorado a pris les commandes avec 3 buts sans réplique dans la seconde moitié de la 2e période, à commencer par le filet de Arturi Lekkonen. Miles Wood, Zach Parise, Josh Manson et Valérie Nichushkin, avec un but dans un filet désert, ont également marqué pour l'Avalanche. Alexander Gorgiev a effectué 30 arrêts pour le Colorado après un premier match où il a permis 7 buts en 23 tirs. Les hostilités reprendront vendredi soir à Denver. Marco Harop ouvre sa saison avec une victoire. Le Canadien Marco Harop, champion du monde aux 800 mètres, a remporté sa première course de la saison samedi à la Diamond League de Xiamen en Chine. En tête dans la dernière ligne droite, le Canadien a résisté de justesse à l'attaque du Kenyan Westlife Kinyamal. Après vérification de la photo témoin, Harop, originaire d'Edmonton, a croisé le fil en 1 minute 43 secondes et 61 centièmes contre 1 minute 43,66 centièmes pour Kinyamal. Le Botswanais Chepiso Mazalela a complété le podium en 1 minute 43 secondes et 88 centièmes. Pour la 3e année consécutive, les Oilers et les Kings s'affrontent au premier tour des séries éliminatoires, mais pour la première fois, les Oilers sont sortis victorieux du match initial de la série avec un gain de 7-4 lundi soir à Edmonton. Connor McDavid a récolté 5 points dans la victoire, Zach Hyman et Evan Bouchard 4 chacun. Les Oilers n'avaient pas gagné le premier match d'une ronde éliminatoire depuis 2017, alors qu'ils avaient vaincu les Ducks d'Anaheim avant de s'incliner en 7 rencontres. Les deux équipes ont de nouveau rendez-vous mercredi au Rogers Place d'Edmonton pour le 2e match de la série. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.